Bienvenue à cette table ronde, à cette discussion sur la machine, la maison machine. Nous allons rentrer à la maison. La maison est le lieu effectivement de machines, de technologies en tout genre. Vous avez tous peut-être un robot ménager, un aspirateur, des tas de choses. Ce qui est en train de se produire, c'est que ces objets sont connectés maintenant à des intelligences, à des ordinateurs, et que nous avons une maison qui s'occupe parfaitement des tâches ménagères, de tout ce qui fait notre confort. Et nous allons voir entre nous d'autres usages possibles de la maison machine, peut-être le soin, l'autonomie pour des personnes à handicap, peut-être la gestion de l'énergie. Nous allons voir tout ça avec nous, et ça va nous donner éventuellement des situations littéraires, des situations dramatiques que nous allons voir aussi ensemble. Alors pour en discuter, nous avons avec nous Olivier Fidalgo, qui est médiateur scientifique à la Cité des sciences et de l'industrie et au Palais de la Découverte. Et Olivier appartient aussi au pôle accessibilité de ces deux musées, accessibilité pour des publics malentendants ou malvoyants, ou à motricité réduite. Il est lui-même sourd de naissance, et nous allons donc avoir une interprétation en langue des signes pendant toute cette discussion. Et ce pourquoi je vous demanderai d'ailleurs d'être parfois patient, parce que nous aurons un décalage dans les discussions dues à cette interprétation. À côté de lui, nous avons Paolo Bacigalupi, qui est un auteur américain que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, qui nous fait réfléchir sur les enjeux environnementaux, notamment le changement climatique, mais d'autres sujets environnementaux importants. Et il est l'auteur de La fille automate, qui a connu un grand succès déjà en France, et plus récemment de Water Knife. Et à côté de lui, nous avons Claude Eken, écrivain français de science-fiction et hard science-fiction, novelliste et critique littéraire, auteur de, en 1987, peut-être que c'est quand on en parlera, de L'univers en pièces, qui fait de lui le pionnier du cyberpunk français, dit-on. Alors, commençons par la manière dont l'habitat va évoluer pour notre propre confort et peut-être aussi pour nous permettre une meilleure autonomie. Olivier Fidalgo, vous avez participé à une exposition à la Cité des sciences qui s'appelait Habitat du futur. Est-ce que vous pouvez nous faire un survol de ces techniques qui vont, soi-disant, améliorer notre vie ?
Déjà, tout d'abord, merci à tous de m'avoir invité ici. Donc, l'exposition est pour 2017. Donc, ça s'appelle Habiter le futur. Donc, c'est pour les habitations, pour les personnes sourdes, mais également tous les handicaps. Et également pour les personnes valides. Donc, en fait, c'est dans la maison, il y aura des objets connectés. Par exemple, vous savez, le EDF, en ce moment, il y a un nouveau système qui est en projet. Vous savez, c'est une machine qui a un bloc, il est à EDF. C'est une machine qui s'appelle Linky. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. En fait, si jamais on part de chez soi en ayant oublié la lumière, une situation comme ça, il va y avoir une surconsommation, et cette machine va pouvoir permettre de réduire les consommations excessives. Voilà, donc c'est un exemple d'innovation. Et bien sûr, pour les personnes qui ont des problèmes physiques, les personnes en fauteuil roulant par exemple, qui sont obligés d'appeler à l'aide. En fait, il y a des objets qui vont être là pour remplacer ça. Par exemple, une personne qui ne peut communiquer que par l'œil, elle va pouvoir, avec les mouvements oculaires, commander des choses. Par exemple, faire des cercles avec ses yeux, ce qui va commander la fermeture d'une porte. Ça sera des mouvements comme ça qui vont commander des choses dans la maison. Donc, c'est pour le bien-être du futur. Voilà, il y a différents objets qui sont aussi liés à la sécurité. Par exemple, des objets qui nous rendent autonomes, Par exemple, aujourd'hui, il y a des recherches universitaires dans les laboratoires qui se multiplient. Par exemple, pour les personnes sourdes, on peut pas les contacter par le bruit. Les sourds n'entendent pas les sons. Donc, en fait, il y a des objets qui remplacent les bruits sonores. C'est des choses qui sont en train de se développer. Par exemple, une machine qui reçoit les sons, qui capte les sons et qui envoie un message pour les transmettre, par exemple, via des couleurs. Une sonnette de porte ou juste qu'on n'entend pas. Bien sûr, actuellement, il y a des flashs lumineux, mais il y a d'autres bruits qui ne sont pas signalés. Donc, en fait, c'est un nouvel objet qui s'appelle Smart Hear. Donc, c'est en anglais. Il va y avoir une couleur adaptée à la sonnerie de porte ou une couleur qui va signaler un cri de quelqu'un qui appelle. Il y aura des couleurs différentes, jaune, rouge, etc. Le rouge, ça pourrait être par exemple pour une alarme incendie. Voilà, il y a des informations visuelles qui vont être transmises. Donc pour la population sourde, elles vont percevoir tout cela par la vision. Et voilà, les personnes qui ont perdu l'audition, qui ont perdu un sens, vont pouvoir le remplacer par un autre. On peut dire que c'est une machine qui rajoute un sens, mais en fait, ça peut être aussi pour tout le monde dans la vie future. La maison pourrait être connectée comme ça. Après, je ne sais pas, une personne qui ne peut pas passer le balai, il peut y avoir un aspirateur automatique qui va le faire à sa place. C'est des personnes qui sont valides, mais qui ne peuvent pas faire ce genre de choses. En fait, ça va être un modèle ordinaire de maison ordinaire pour les personnes lambda à l'avenir. Enfin, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que ce confort-là est vraiment positif? Est-ce que ça va nous rendre plus autonomes ou est-ce que ça va plutôt être un frein? Est-ce que ça va être repris par tout le monde? Bon, il y a beaucoup de questions autour de ça, hein, mais on en parlera plus tard.
Un autre usage de la maison-machine serait la consommation d'énergie. Au contraire, la réduction de la consommation d'énergie et peut-être même la production d'énergie par la maison elle-même qui pourrait être utilisée pour la voiture ou pour autre chose. Paolo Bacigalupi, vous qui nous interpellez toujours sur les risques environnementaux d'un usage très important de l'énergie, j'ai noté que actuellement l'habitat et aussi le travail, donc du coup les bureaux, tout pris ensemble, nous fait consommer le plus d'énergie. C'est le poste qui nous fait consommer le plus d'énergie. En termes d'esclaves, un Français aurait 500 esclaves à son service pour toute l'énergie qu'il dépense, et il aurait 200 esclaves rien que pour la maison. Donc le chauffage, les appareils ménagers, tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ce développement de technologie? Est-ce que c'est une inflation de la consommation d'énergie ou au contraire, est-ce qu'on a un espoir qu'on arriverait à réduire notre consommation d'énergie?
This is actually very interesting to me because when we talk about a smart home or a connected home or the sort of networked home, there is this sort of a hidden idea that the energy that we've got is always going to be free and or so cheap that we don't really care. And with my own home, actually, we just recently invested in solar panels, and so we had to figure out what our actual electricity consumption was and understand better, you know, how big a refrigerator do you have, and is that dishwasher actually always turned on even when it's off, and what is that television doing when we aren't watching it, and, you know, what are our routers doing, our network systems that are in fact, always on, always streaming data into the house, And even at that very low level, you actually see a fair amount of energy usage, and it's something that it's invisible enough, and because our energy production is cheap enough that it's a cost we're willing to absorb, mostly because we aren't paying the full cost of it. Obviously, in the United States, in Western Colorado, where I live. When we're connected to the electricity grid, we're actually connected to coal-burning power plants. So every time I watch television, I am, in fact, burning coal, and that's one of the reasons why I wanted to get the solar panels in the first place. I think that when we talk about moving into that future home where more devices will function autonomously, you know, again and again we come back to this idea that technology, the energy demand is going to be so cheap that it's essentially a dismissible thing. It's kind of I'm curious to actually watch what's happening, because on some levels we are seeing energy consumption drop. We are seeing things like, you know, that now, you know, maybe your television isn't deciding to always be on. They are actually noticing that might be a bad idea. Also we're seeing, you know, greater efficiency in the way that our microprocessors work, the amount of energy, the demand that a system needs in order to do, you know, higher end computational work isn't as much as it used to be. But to me, also I'm looking at whether or not we're just simply building smart. A lot of this, you know, conversation about like building a smart, or we focus on the technological interventions or the high tech interventions because they're very sexy, they're very exciting. Oh, look, you know, I can control my thermostat from my phone, you know, when I've left the house. Isn't this cool? But there's this, one of the things about the home that I live in right now is that it was designed back in the late 1970s, early 80s, when there was an energy crisis. And there were certain basic decisions that went into the home design that actually are technological interventions, but they're design interventions. There are all south-facing windows on the house. So during the winter, the sun streams in and it saves us energy. It's well insulated, so we aren't as hot in the summer. When it's during the summer, the sun is overhead and it's not streaming sunlight into the home. You know, there are these things where I sort of feel like we get sucked down one path of design, which says, "Oh, look, we know that the house is getting too hot or getting too cold. I'll create a network device that will run the air conditioner when it's hot, and it'll run the heater when it's cold, and I'll be able to control it from my phone." And all of those things are expensive, technological, energy-demanding interventions, when, in fact, a little more insulation and south-facing windows might be all you actually need. And I'm always fascinated by those design decisions, the engineering decisions that we make that say, how do we solve this particular problem, and is there a cheaper, simpler, just a more elegant way to do it? And oftentimes it seems like there's something lying right in front of us and we don't notice it because we're so obsessed with, you know, how network connected our thermostat can be.
Et si je reprends l'univers de la fille automate, là on n'a plus d'énergie, donc du coup la maison elle fonctionne comment ? Ça fonctionne à pédale, c'est la force physique, la force animale qui est mise en avant.
Well, in The Wind-Up Girl, actually, I've created this sort of world where energy is only coming from one of two things. One of them is calories, and all food production is controlled by giant agricultural corporations that are somewhat like Monsanto. They control all the seeds. Everybody has to go back and buy food from, or seeds from these companies each year. Farmers have to go back to these companies each year to buy their seeds. And if you can't pay, you starve. Similarly, but I was interested in the idea not of food just as food that we consume, but also food as energy. And so in this system, I sort of imagined that Monsanto had perhaps bought up all of the wind turbines and the nuclear power generators and pushed them off so that they can control all energy. And so food, you know, calories are also fed to these giant megadonts that wind springs. And people are also paid to wind these springs to have stored energy. And so, for example, if you have a ceiling fan in Bangkok, you have a man who comes around every day and winds your ceiling fan up so that you'll have enough, you know, you'll have enough power running for that day to cool your home. And so it's all trying to tie the idea of energy and food and work all together in one very tight chain so that you see that labor that goes in, that energy that goes into things that we would otherwise take for granted. And so for me, all these ceiling fans are running, and it's always from somebody's sweat and labor that they've wound the ceiling fan up, and now somebody else who's wealthy can relax and enjoy that work.
Uh, Dernier exemple de maison intelligente qui utilise les ressources et qui les protège, c'est dans Waterknife, la maison qui recycle l'eau.
Right. In the Waterknife, I was interested in writing about drought and climate change and how we adapt to environmental threats. And one of the things in science fiction, there's always the story of the domed city. You see the domed city oftentimes in science fiction, and the idea that for some reason or another in the future or on Mars or whatever, that we're going to isolate our human habitats away from the environment. And at some point it occurred to me that we're already doing this all the time. This building is air-conditioned. We already are spending a certain amount of time and energy isolating our human habitat from whatever the difficulties of the environment are outside. In this future, where drought and climate change and extreme heat are happening, the people in several different cities where the story takes place, in Las Vegas and Phoenix, they've started constructing arcologies, which are these huge integrated sort of buildings that recycle all their water. They use the water to grow their own food. They have solar panels and energy generation for themselves, and they've essentially sort of walled themselves off from the rest of the city, and they're very efficient. Everything is monitored. Everybody can see exactly how much water consumption they have. They can see the cost of the water consumption, as that, you know, if they turn on a faucet, they can actually see the price of water while they're running the faucet. So they're always aware of how much resources they're using, but those resources are also being used, and the machines that are designed into the system are designed to sort of, they can, the, you know, the water that gets used for bathing then goes to fish, then goes out to hydroponic farms, and it gets used again and again and again, and all these systems are integrated to create one holistic living environment, which is very elegant. The design is very elegant and very beautiful. The thing about these things, though, is that because they're technological interventions, they're being done on behalf of those people who can pay for them. It's a for-profit exercise, and so those people who can afford to buy into an arcology suddenly no longer experience the problems of the outside world. They can look out and see a dust storm is happening in Phoenix, but their air filters and air conditioners are keeping them completely isolated from it. And they can say, oh, wow, it looks like terrible weather out there, but it doesn't matter to them exactly. And the thing that's always been interesting to me about technologies is that when they're used for... Technologies almost always are introduced inside of the context of a free market, a marketplace where somebody recognizes that there's a demand, and so somebody else builds an object to satisfy that demand or that need or that desire. And so, you know, I think the first time I came across this actually was when I was visiting my wife's family in India, and all of the middle-class homes in India have their own personal water filters, and so you have water filtration for the home, and it solves the problem of dirty water in India, but only for those people who can pay for it. If you're poor, you don't get clean water. If you're middle class or upper class, you have a solution for that. The problem is that it breaks democratic society into different interest groups, those people who can afford to pay for a solution and those people who can't, and it means that the people who have the political power and have the hands on the lever of government, who have the intellectual know-how, all of those things, their interest in solving the collective problem of a whole city's water is reduced. And so the people who have the most power have already solved their problem, and so they stop making the holistic decision to let's clean all of the water in the city, let's make sure everybody is... because they've lost the power of empathy. They aren't experiencing the problem anymore, so they don't really see it as something that they need to expend their political capital on. And I'm very interested in those moments when a technology, because it protects us from one thing, it means that we aren't engaging with the larger question outside. We've solved our immediate problem, but not the holistic problem.
Claude Ecaine, sur cette question d'inégalité de la maison.
Oui, j'ai envie de demander si la démocratisation de la technologie ne fera pas qu'à terme, tout le monde pourra progressivement avoir accès à ces outils qui peut-être sont maintenant réservés qu'aux riches. Nous avons déjà là des robinets qui ne coulent que lorsque l'on présente ses mains. Il y a déjà donc des moyens d'économiser, du moins on empêche la personne de gaspiller. Et on a aussi des appartements, des maisons qui seront davantage même génératrices d'énergie. Il n'y aura pas que le toit photovoltaïque, il y aura une peinture photovoltaïque et qui en même temps peut être dépolluante. Donc à terme, est-ce qu'on ne peut pas non plus gagner en énergie, ce qui ne dit pas qu'on ne va pas la gaspiller pour autre chose?
Juste.
Oui, Olivier.
Je peux rajouter quelque chose par rapport à ce type de situation, justement. Il y a une université en Italie, à Macerata, qui est justement une femme dans ce laboratoire, qui est elle-même sourde, qui s'appelle Agnès Conulla. Elle a un projet d'une maison qui serait intelligente, justement, et qui se gérerait davantage, un peu comme une machine. Et justement, par rapport à ce qu'on disait, si on n'entend pas l'eau, parce que nous, en tant que personnes sourdes, on peut oublier l'eau qui coule, ça nous arrive, et ça m'est déjà arrivé, et on peut laisser l'eau couler toute une nuit, et le lendemain, ça se ressent sur la facture quand même. Donc, on peut créer, par exemple, des machines qui peuvent savoir automatiquement si l'eau est gaspillée. Et si je sors, je peux avoir une alerte comme ça qui me dit « Attention, faites des économies, faites attention à l'eau, faites attention à l'électricité. » Avoir ne serait-ce que des alertes déjà. Nous, en tant que personnes sourdes, c'est vrai que ça peut être intéressant. Sur le monde des entendants, ça peut être aussi quelque chose qui peut se développer énormément et trouver son intérêt chez les entendants aussi. Et que ce soit sur la consommation électrique ou toutes les dépenses en général, ça peut être des dépenses gâchées qui peuvent être évitées et qui peuvent être donc bénéficiaires pour l'avenir.
I think there's something really interesting in the idea of the home as being an extension of our sensory selves, that we actually would have, if there are alerts that either come into our phone or if you have a bracelet that alerts you about what's going on, the idea that you can actually sense the environment of your home and better comprehend what's happening in it, whether that's electricity consumption or water consumption. That's a very interesting idea. It's like the extended human. It's the augmented human. And it goes, you could extend it into all sorts of different parts of our lives where our awareness doesn't, you know, like for me, it's always the stove. That's, you know, I can leave the stove on and the tea kettle heating up and boiling away all the water. And because I left the whistle off, suddenly I boiled away all the water, and the teapot is melting down. And I've done this twice now. and if there was some way for me to feel heat when that stove was getting too hot, some kind of understanding, like that my, you know, to extend the idea of where my skin touches, so that I'd be aware of it, this would be very, very powerful.
On peut aussi imaginer des villes interconnectées, c'est-à-dire l'excédent d'énergie produit par l'un peut servir à d'autres fonctions. Ça commence à se faire avec certaines entreprises qui retraitent leurs déchets en les donnant à une usine qui peut en avoir un intérêt, qui peut s'en servir. Donc là aussi, il y a un moyen de faire des économies, d'empêcher le gaspillage et de s'en sortir d'un point de vue écologique.
Olivier.
Oui, justement, sur une petite histoire un peu humoristique par rapport à la technologie, ce qui peut être intéressant, c'est sur les échanges. Par exemple, mon conjoint est parti s'installer en Italie, et au niveau psychologique, c'est toujours dur d'être loin de la personne qu'on aime. Et l'Italie, on ne peut pas y aller forcément très facilement. Et à l'avenir, si on avait ne serait-ce que un peu, déjà, on a des films à la télévision, mais avoir quelque chose, on peut la voir concrètement à côté de soi. Avec son portable qui pourrait servir de base d'hologramme, par exemple, et où moi, je voudrais discuter un peu avec quelqu'un, je pourrais le contacter et qu'il soit en 3D, la personne soit en 3D en face de moi, ou à l'inverse, que l'autre personne puisse se joindre à nous, même physiquement dans la pièce, avec une troisième personne qui soit là et qu'on ait un échange à trois alors qu'on est à trois endroits différents. Je trouve que même au niveau affectif, pour ne serait-ce qu'avoir une vie qui est peut-être un peu plus simple au niveau moral, des fois, ça peut être utile. Réduire ces distances-là, et puis pouvoir commander des programmes à distance, ne serait-ce que le frigo, ce genre de choses. Si on n'a rien dans le frigo, simplement dans le frigo, on peut commander des aliments qui sont livrés. Tout ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être voir à l'avenir. Pareil pour le téléphone. Moi, je ne peux pas utiliser le téléphone. Donc, je dois appeler avec un interprète en fonction des disponibilités, etc. Ne serait-ce que si j'avais ce genre de technologie, on commande directement, ne serait-ce que sur le frigo ou quelque chose d'autre, il n'y aurait pas besoin d'interprète. Moi, je passerais directement l'information. Et que ce serait pour commander des pizzas ou autre chose, tout ça, je pourrais le faire directement, me faire livrer une pizza directement. Tant que ça passe par une interaction écran, moi, l'interaction, elle peut se passer directement sans que j'ai besoin de communiquer par l'oral.
I live in Western Colorado, which is a very rural place, so it's like the backwater of the backwater. So I went and visited a friend in Seattle, which is the land of Amazon, which, you know, I have mixed feelings about this corporation. But the interesting thing to me about visiting him was that he decided that he was going to throw a party that night. And he said, okay, well, let's go out to dinner and then we'll have the party afterwards. And he got on his cell phone and he punched some buttons and he said, okay, all the supplies will arrive at 7 o'clock, so we need to get back by 7 so we can set up for the party. And we go out and we have a nice little dinner, and we arrive back, and he had a list, a pre-programmed list for Amazon, and Amazon is doing grocery delivery in Seattle, and there was a pre-programmed list of all of the things that he wanted, all the ice, all the drinks, all the everything suddenly is showing up right there on the doorstep, and he just carries it right in, he lays it all out on the table, and his friends start to roll in about 15 minutes later, and to watch this all happen in this seamless way where, you know, suddenly, like, his extended ability to take care of several different things while still being a perfect host for me and taking care of me was very interesting and struck me as being like, oh, that does seem nice. It would be nice not to have to go all the way to the grocery store and purchase all these things and then try to keep track of what was that list. Oh, it's all set. He knows exactly, you know, party number one. This is this version party, and, you know, and it arrived. And I was a bit stunned and shocked, so it was cool.
Mais aussi, on peut prendre, par exemple, le soir, l'apéritif. On peut avoir l'apéritif qui arrive déjà chez soi, qui est déjà préprogrammé. Ça, on l'a déjà, ce genre de choses, pour les apéritifs qui peuvent arriver chez nous de manière programmée, oui. Bon, après, on reste dans des choses un peu d'humour et légères.
Alors, messieurs, je pense qu'on a déjà quelques ingrédients pour imaginer quelques situations dramatiques de romans. Qu'est-ce qui se passe si... Alors, première question, qu'est-ce qui se passe si ça bug? Deuxième question, que deviennent les données qui sont collectées, qui sont enregistrées obligatoirement quand on commande des choses, quand on a une certaine consommation d'énergie ou d'eau potable et qu'on la régule, on la fait réguler par la machine, que deviennent ces données et par qui elles vont être utilisées? Qui veut répondre?
The question of who the third parties are who are involved in managing your life, I think, is a huge question. And I think you see this right now. Just recently, we saw all of the security cameras, the private security cameras that homes had, were hacked. It's a small Chinese company that's making these security cameras. They're selling them all over. It turns out they've sold millions of these things all over the place. And they're network devices. And it turns out their network security is terrible. And so suddenly they're being turned into a botnet that's bringing down major websites. And there was, it was sort of this proceeding willy-nilly towards the networked future. It says, yeah, okay, great. You know, I've got this ability now to connect to my home with my cell phone. It turns out so does everybody else. So, you know, the immediate thought is, like, what goes wrong when a security camera can be hacked? Well, first of all, you were using it to observe your outside surroundings, but now it's observing you and who's behind it. But more than that, like that, these are all little computers, and computers are powerful. The amount of computing power in the average small security cam, you know, rivals anything that they had in the 1950s, you know, in big rooms. And so, you know, the idea that this amount of computing power is simply lying around with unsecured and ready for anybody to some sort of come trolling through is, I think there was a moment just recently for me where it was like, oh, they talk about the Internet of Things, the Internet of Connected Devices. And I saw somebody make a comment. They said, actually, this is the Internet of Things that should have never been on the Internet. And it's true. It's like maybe some of these things, this ideal of connectivity, we actually can't even comprehend the number of breakpoints that are actually there, either from malice or from technical failure. And the engineers who are making them are just like, well, we'll just sell another few of those cameras. We'll see what happens. We don't care.
Claude.
J'ai l'impression que la maison machine devient un microcosme, un univers entièrement isolé du reste, où l'individu, de toute manière, n'aura qu'une importance secondaire. C'est-à-dire, quel que soit l'occupant, la maison va se réguler elle-même et va réguler également l'occupant. Ça peut avoir des côtés très coercitifs. On vient d'évoquer toutes les manières de faire des économies, d'éviter le gaspillage, cela peut aller jusqu'à peut-être des lumières qui vont s'éteindre ou qui vont baisser en intensité lumineuse pour pouvoir l'économiser. Ça peut être aussi, pour le bien-être de l'occupant, pour sa santé, un frigo qui refuse de s'ouvrir ou qui ne renouvellera pas les aliments trop gras ou trop sucrés afin de préserver sa santé. Donc la domotique est aussi quelque chose qui nous contraint et évidemment qui peut être contrôlé par d'autres lorsqu'on parle de piratage. Moi, je pense déjà rien qu'à Philippe K. Dick avec le Conapt, l'appartement connecté où tout d'un coup, la personne ne peut plus entrer chez elle et finalement, elle était bien contente puisque c'est la police qui devait la chercher. Tout d'un coup, s'il avait été à l'intérieur et que l'on devait venir lui poser des questions ou bien l'arrêter, l'occupant n'aurait pas pu sortir de chez lui puisque la police aurait mis un veto en intervenant sur la maison.
Olivier, on va reprendre.
Pour problème d'interprète qui n'avait pas le micro en main. Oui, effectivement, il peut y avoir des situations où les objets connectés, par exemple, imaginons les centres relais téléphoniques avec les interprètes à distance. Ça utilise un numéro spécial, mais si on a un problème d'informatique, qu'on veut appeler la technique pour que l'ordinateur soit réparé, ben, on est bloqué. En fait, on ne peut pas appeler nous, alors que nous, on a besoin d'autonomie. On a besoin d'avoir des systèmes qui puissent détecter les problèmes. Mais du coup, là, on aurait besoin de passer par un interprète pour appeler le système. Donc, il peut y avoir des problèmes. Il y a des choses qui évoluent. Mais par exemple, il y a un numéro d'urgence qui s'est créé il y a peu de temps. Donc, c'est un système d'appel, un centre de relais d'appel pour les personnes qui ont fait un malaise ou quoi que ce soit, pour avertir les secours. On peut appeler également si on voit qu'il se passe un vol, quelque chose comme ça. Il y a des secours qui peuvent arriver, il y a des numéros d'urgence qu'on peut contacter. Bon. Mais en fait, je me dis que par rapport à ce qui vient d'être dit, au Colorado, là, c'est une campagne, bon, c'est un endroit assez isolé. Si jamais il y a quelque chose qui. La technologie est en panne, il y a du coup des grandes distances à faire pour rejoindre les personnes, pour les ambulances, pour qu'elles arrivent, pour qu'il y ait des réparateurs. Ils viendraient de loin. Si jamais il y a un virus, un piratage, c'est quelque chose qui peut être vraiment bloquant. Donc on peut imaginer des situations où alors l'intervention d'une personne humaine serait nécessaire. Les robots à distance, est-ce qu'ils pourraient venir aussi loin? C'est une question. Comme sur Mars, par exemple, on peut gérer les choses à distance, éventuellement.
Oui, effectivement, on le voit bien. Pour tout ce qui est engin interplanétaire, eh bien, c'est la première des maisons complètement autonomes, maisons-machines, où l'occupant est vraiment livré à toutes les fonctions technologiques. Et justement, le roman de Peter Weir, Seul sur Mars, nous l'illustre très bien, parce qu'à partir du moment où il y a un bug, il est obligé d'organiser sa propre survie avec les moyens du bord, et évidemment, il n'en a pas beaucoup.
Yeah, it's interesting talking about where things might fail. And slowly over time, we build up sort of rituals or protocols for protecting ourselves against something going wrong. You know, we seem to build slightly better nuclear reactors now than we did in the past. And yet we still have Fukushima's where, oh, yeah, we didn't think of this combination of two failures happening at once. And what happens then? And... you know, speaking specifically about where I live, actually, we commonly have digging crews rip out the one telecom line that leads from our town out to the rest of the outside world. And so in that moment, our phones go dead, our cell phones go dead, the internet goes dead, and we're isolated. And this happens every year or so. We have another one of these things happen because it's a vulnerability that seems so obvious, and our fail-safe is, well, you should contact the proper authorities before you start digging with a backhoe, but apparently, again and again, we don't learn this lesson, and so building in the fail-safes for, you know, your smart home or for anything else, if it's got to be communicating with a data center outside, you know, you also have to be anticipating that it has enough autonomy to survive and do smart things, even if it can't communicate with a data center in St. Louis or Chicago or China or wherever it is. And what strikes me is that, like, even those simplest of failure moments oftentimes are unanticipated when we're designing these systems. And so when we get into the more complex ones where somebody is where there's actually an actor who has malice, that there's a whole other level of complexities, and we still haven't managed to secure computers, let alone all of these other connected devices that we're talking about. So I think the breakpoints are many, and we'll discover them over time, and people will be hurt in the process as we learn, oh, let's not do that again.
C'est vrai que sur les pannes les plus simples, j'ai écrit récemment une nouvelle où la personne est dans un appartement entièrement autonome qui produit même dans l'épaisseur des verres ses propres cultures avec des robots jardiniers. L'eau est entièrement recyclée. À l'étage inférieur, il peut y avoir une salle de chirurgie s'il y a certains besoins. C'est un homme en chaise roulante et il y a eu un dégât informatique, un verre jeté sur le clavier qui ne lui permet plus de communiquer avec son appartement, avec sa maison. Donc tout marche, tout va très bien, mais il ne peut appeler personne à l'aide et il est obligé de rester seul dans cette maison. Donc au bout d'un an, il va essayer peut-être de mettre le feu pour alerter les pompiers. Il va peut-être, ça ne marchera pas parce que la maison va tout éteindre, il va être amené peut-être à se suicider, mais il est aussitôt soigné et il restera coincé comme ça. Voilà, un bug de rien du tout peut avoir des conséquences vraiment très graves.
Oui, Olivier. C'est la question de l'autonomie qui devient une telle dépendance à la machine que on ne s'en sort plus, quoi.
C'est vraiment la question de la dépendance. Nous sommes de plus en plus liés à l'énergie que nous générons, l'électricité essentiellement. Nous avons des extensions, ce sont nos extensions que ces outils technologiques. Donc nous avons l'habitude d'interagir parfois très très loin. Et lorsque ces choses-là disparaissent, nous nous sentons complètement démunis. Donc oui, c'est la grande question. Et je pense que si aujourd'hui il y avait un désordre majeur qui nous couperait de toutes nos extensions technologiques, un arrêt complet de l'électricité, par exemple, je crois que la civilisation pourrait s'effondrer assez vite, enfin que l'on verrait de très très gros dégâts, au moins dans les centres urbains.
Oui, Olivier.
Justement, je voulais faire suite à ça. Il y a eu une exposition sur le climat, Climax. Donc c'était en 2004, je crois. Hein. L'exposition concernait les projets futuristes. C'est vraiment intéressant. Et donc, je voulais parler d'un exemple. Donc, pour les panneaux solaires, qui transforme l'énergie du soleil. Il y en a déjà actuellement. Après, il pourrait y avoir aussi ici, par exemple, une tempête. Et à ce moment-là, bah, l'énergie photovoltaïque ne marchait plus. En fait, ce serait l'utilisation de satellites qui, eux, capteraient l'énergie solaire et qui seraient renvoyés. Donc, en fait, ça rattraperait l'énergie qui manquerait sur Terre. Ça viendrait directement des satellites. Il y aurait des bornes. Après, si jamais il y a un tremblement de terre, n'importe quel problème qui invalide les installations terrestres, il y aurait ces satellites-là en relais. Mais est-ce que ça provoquerait des problèmes pour la santé ou pas? Parce que il y a des ondes, le système de rattrapage électrique peut provoquer des ondes qui seraient néfastes. Imaginons que une partie de la Terre soit, quand il fait nuit, qu'une partie de la Terre n'est pas éclairée par le Soleil, en fait, il pourrait y avoir ce système-là de relais par les satellites. C'est quelque chose d'intéressant, enfin de confortable finalement, mais après ça crée un problème de dépendance de plus en plus importante. Oui, c'est un des problèmes. Parce qu'en fait, il y aurait de l'énergie en continu et on ne pourrait plus vraiment s'en défaire. On pourrait, quand autrefois on vivait à la bougie, est-ce qu'on, si jamais il y a une coupure d'électricité un jour, est-ce qu'on accepterait de revenir à cette époque-là? Il faudrait réapprendre les choses, on aurait peut-être peur. C'est des choses qui seraient réacquises.
Alors, messieurs, en termes de science-fiction, est-ce que vous avez un exemple marquant d'une maison devenue intelligente au point qu'elle devienne un des personnages principaux du roman ou du film? Je revoyais Ex Machina grâce à ce festival merveilleux qui nous permet de revoir des films. La maison dans Ex Machina joue un rôle très important. Avec cette coupure du monde extérieur et ce programme qui protège les habitants et qui peut se retourner contre les habitants eux-mêmes. Vous avez d'autres exemples comme ça de maisons à rôle principal?
Le cauchemar ultime pour moi, c'est le roman de Dean Koontz, qui est déjà assez ancien, je crois qu'il est des années 70, qui s'appelle « La semence du démon ». C'est devenu un film, Génération Proteus. Bon, alors effectivement, la maison est quand même connectée à un ordinateur, et c'est l'ordinateur qui se met à bugger, puisqu'il commence à se prendre pour un être humain, et il a envie d'essayer de se reproduire. Et donc, il tient en otage l'occupante de la maison, il ferme tout, les volets de fer, il a des moyens de défense contre les intrus venant de l'extérieur, et donc, il va tenter une expérience ultime, et la personne ne peut absolument rien faire, elle est prisonnière de sa propre maison.
I actually the strangest smart home that I feel like I've seen recently depicted in science fiction was actually in an episode of a television show called Black Mirror, and there is, I think it was maybe the second episode of the first season, a man lives in an apartment, and on all of his walls there are always advertisements running, and there's always a little piece of information about how many credits he has, how much money he has, and that he can do certain things with his house as long as he has money in the account. As it goes along, it turns out that one of the ways that they spend money is to turn off the advertising that literally covers every single wall of his home, that he has to pay in order to have silence or darkness. And otherwise, essentially, in order for him to earn his home, he has to consent to advertising at all times. And it was very interesting that this home, there was a point where if he closed his eyes, he was in, I believe, he was in violation, essentially, of his contract for his home, that it was, he needed to be absorbing a certain amount of advertising in order to be valid, because he'd run out of money. He had to take the advertising instead. And it was like, it was the home as designed by, you know, website designers and profiteers. It was very interesting, but he was essentially trapped and enslaved inside of this home and doomed to watch advertising. It was fascinating.
Olivier?
Oui, ça me fait penser à une autre situation par rapport à la sécurité dans une maison. J'ai une citation, enfin un exemple pas mal qui s'est déroulé au Japon. Il y a eu des recherches en fait sur la perception, enfin les capteurs, par exemple incendie. Les sourds ne peuvent pas entendre les bruits, par exemple. Et en fait, quand on dort également la nuit, même les personnes entendantes, quand vous dormez, vous n'entendez pas forcément ce genre de bruit. Enfin, ce n'est pas forcément certain. Donc, il y a une université qui a fait une recherche formidable. En fait, c'est une méthode que, en fait, on rajoute un capteur sensoriel qui diffuse des odeurs. Donc, en fait, c'est une odeur. Vous savez, le wasabi, le célèbre pâte verte piquante, donc le wasabi, ça diffuse cette odeur-là, et à ce moment-là, les personnes sont alertées et réveillées. Voilà, c'est une méthode sécuritaire innovante. Donc, c'est vraiment une technologie qui pourrait vraiment protéger les personnes. À la place des flashs lumineux ou sonores, ça peut réveiller la nuit. Et en fait, c'est utile pour tout le monde, ce genre d'innovation.
J'ai envie de vous reparler d'une nouvelle de Sylvie Lainé dans laquelle les objets ont un droit de déconnexion. Donc, imaginez une maison connectée, tous les objets sont connectés à une centrale qui pilote tout. Les habitants décident de tout déconnecter pour laisser chaque objet vivre sa vie. Dans ce cas-là, chaque objet retrouve son indépendance. Il se trouve que dans cette nouvelle, ces objets sont tout de même intelligents et ils prennent le pouvoir. Donc, l'image ici, c'est la centralisation de l'intelligence n'est peut-être pas obligatoire pour obtenir une prise de pouvoir des objets. Claude, ça t'inspire quelque chose ?
Je ne sais pas si on peut vraiment parler de prise de pouvoir. J'ai l'impression que le pouvoir que prend la machine est toujours le pouvoir qu'on lui délègue. Donc on permet à la machine de se déconnecter, c'est l'humain qui l'autorise. Le problème, évidemment, c'est que l'on ne voit pas les conséquences sociales ou disons individuelles, psychologiques, sur l'être humain à force de trop déléguer des choses, de la même manière que peut-être si on ne fait pas d'efforts, si l'on mange de manière trop calorique, c'est très bien, on a le pouvoir de le faire, mais ensuite on a certaines conséquences et bon, il faudra bien payer la note un jour. Donc on délègue beaucoup de choses à la machine pour pouvoir se soulager de certaines tâches. Est-ce qu'on l'utilise bien, ce temps libre ? Je n'en sais rien, pas toujours peut-être. Et à partir d'un certain moment, on se rend compte, là justement, qu'on lui a donné trop de pouvoir, et elle a le pouvoir de fait parce qu'on le lui a donné, et non pas parce qu'elle l'a pris.
Est-ce que l'un de vous souhaite poser une question, intervenir, faire un commentaire, un micro-circule ?
Oui, bonjour et merci déjà pour cette table ronde. J'avais une question en particulier sur justement ces maisons connectées. L'idée aussi d'avoir des robots pour interagir justement dans ces maisons connectées. Le robot serait une entité en plus de la maison qui permettrait justement de régler certains des soucis que vous évoquiez en cas de problème. Par exemple, ça pourrait être un traducteur multilingue, on pourrait penser à un C3PO par exemple. Ça pourrait aussi alerter, avertir. Monsieur Olivier Fidalgo parlait de moyens visuels par odeur, pour se réveiller en cas d'urgence, en cas d'incendie, mais aussi pouvoir être sorti du lit et être mis en sécurité en cas de besoin. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, qui est en cours autrement de réalisation ?
Uh, No, I'm not writing on anything like this, but you are seeing like the first nascent versions of that. I mean, you do see stuff like the Roomba, the automated vacuum cleaner that, you know, not only goes out at programmed times, but it, you know, does its sweeping tasks and then it returns and recharges. And you can imagine these moments when a piece of the house will disconnect from itself and go off and take care of various tasks and then could return and recharge and be ready again, like little I don't know, little droids that it are also part of the home ecosystem, I guess. I think there's a rich potential there to play around, but it's not space that I work in personally. So.
Mais pour finir, il faut bien se rendre compte aussi que la machine, le robot sera connecté également à l'équipement domotique. Et qu'à ce moment-là, si l'équipement se met à bugger, la machine sera privée d'informations ou réagira de même. On avait évoqué aussi le cas du piratage. Eh bien, à ce moment-là, il y aura un piratage qui pourra affecter également le robot et devenir peut-être un petit peu plus dangereux aussi.
Olivier ?
Oui, déjà aujourd'hui, on a un certain nombre de choses. Par exemple, sur la fête de la science en octobre, mi-octobre, je crois, on avait déjà des robots et ça pose des questions pour le service. Par exemple, est-ce qu'on pour les toilettes, est-ce qu'ils peuvent nous dire où sont les toilettes, ils peuvent nous répondre, nous donner des informations. Et il y a vraiment une interaction qui se fait, des informations qui peuvent venir ou de l'accueil, par exemple sur une exposition. On peut avoir des robots qui donnent des informations d'accueil ou sur un salon. Et il y a des robots qui, comme ça, peuvent être intéressants sur l'avenir. Qui peuvent être donneurs d'informations, qui peuvent être donneurs de conseils, et même pour la manipulation, par exemple, en langue des signes, par contre, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas une praxi suffisante. Mais ça peut être simplement des gestes simples comme par ici, par là. Tout à l'heure, on discutait par rapport à la machine qui doit aussi se recharger en énergie. Et avoir une machine, effectivement, elle peut aussi être abîmée. Qui va investir dans cette machine, qui va s'en occuper en fait elle-même. Et il y a un musée, par exemple sur certains musées, il y a un musée où des personnes qui ne peuvent pas monter à l'étage, qui ne peuvent, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, parce que c'est des musées qui sont des lieux patrimoniaux, j'en avais déjà parlé hier, on peut avoir plusieurs étages sur ces musées-là, et les personnes handicapées qui veulent visiter peuvent prendre un robot qui est lui à l'étage et qui relaie les informations grâce à une caméra à la personne handicapée moteur qui reste au rez-de-chaussée face à un écran et qui peut diriger le robot pour se balader. Il y a ce genre de choses qui avancent. On a des humanoïdes qui sont de plus en plus présents. Maintenant, on veut même mettre des cerveaux humains à l'intérieur de machines. On a plusieurs choses qui arrivent comme ça. Est-ce qu'on arrive à un avenir un peu à la Star Wars, en fait ? On peut commencer à se poser des questions.
Une autre question ? Moi, j'en avais une autre supplémentaire. La question de l'intimité. La maison est vraiment le lieu de l'intimité et de presque le repli sur soi, le moment où on se retrouve avec soi ou avec sa famille. Et la maison toute équipée, qui s'occupe de tout, ça m'apparaît aussi un peu comme un repli sur soi, finalement. La question de la connexion avec l'extérieur, comment on la concilie avec une maison ultra moderne comme ça ?
C'est sûr qu'il y a peut-être une perte d'intimité, mais je pense que c'est la même perte d'intimité que l'on peut avoir avec son smartphone ou avec n'importe quel appareil qui connaît un petit peu tout de nos secrets, parce que on les lui confie et il est capable de nous rappeler certaines choses. Donc, l'intimité de la chambre, peut-être la maison sera au courant. Elle va demander si elle va changer les draps, si elle doit effacer peut-être tel poster au mur parce qu'il y a une autre personne qui va venir et qui voudrait mieux qu'elle ne voit pas ça. Ça peut s'imaginer comme ça. Ça peut être en tout cas très intéressant aussi bien pour des personnes handicapées et autres. J'avais été une fois en débat avec un chercheur en robotique qui me disait bien qu'une personne handicapée, lorsqu'il fallait la laver et faire sa toilette, aurait préféré que ce soit une machine tout à fait conçue pour ça plutôt qu'un humain, parce qu'il n'y aura rien de dégradant, la machine ne le verra pas, et en cela c'est quand même très utile. Et donc l'intimité, ben, je crois que on perd ses inhibitions face à cette machine-là.
Oui. Et sur des situations personnelles qui, par exemple, il y a des choses importantes qui peuvent arriver. On a des portables qui sont à l'intérieur de plus en plus connectés les uns aux autres. Et si on a un ami qu'on essaye de contacter qui veut rentrer dans sa maison, ça peut arriver, par exemple, d'avoir simplement de pouvoir voir où est-ce qu'il est parce qu'il est géolocalisé. On sait qu'il arrive à la maison. Et que les gens sachent, qu'on partage ce genre d'informations, que les gens sachent où est-ce qu'on est, qu'ils puissent nous chercher, nous trouver, savoir où est-ce qu'on est, c'est quand même quelque chose de très intrusif. Et pareil quand on part en vacances, si on part loin, et pas forcément même à l'étranger, mais que les gens sachent qu'on puisse rester à la maison ou être parti, et que même des pirates éventuellement puissent avoir ce genre d'informations et puissent venir dérober justement à des moments où on est parti parce qu'ils ont eu l'information en piratant notre compte, tout ça, ça reste très intrusif. Le portable, ça reste aussi un danger, il ne faut pas l'oublier, et simplement se couper un peu du portable de temps en temps, arrêter qu'il soit aussi présent dans nos vies, aussi intrusif, ça peut être aussi quelque chose auquel on peut réfléchir. Et à l'avenir, justement, si avec les technologies, la domotique, la domotique se généralise, est-ce qu'on aura justement de plus en plus, on sera de plus en plus contrôlé par ça? Est-ce qu'on sera finalement des personnes qui seront dépendantes de nos maisons? Et aussi que la caméra sera braquée sur nous en fait en permanence? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, oui.
On va juste libérer du coup Claude, parce que je crois que tu as une autre table ronde.
Je viens d'en faire deux.
Non, ça va. Alors, on peut prendre une dernière question qui est juste devant.
Justement, par rapport au danger de la géolocalisation sur la vie privée, moi, ça me fait vraiment me demander qui autorise ce genre de technologie pour la sécurité, si on peut même se faire kidnapper ou ce genre de choses. Nous, voilà, comment est-ce qu'on peut autoriser ou ne pas autoriser? Et à l'avenir, est-ce qu'on aura le droit d'autoriser ou ne pas autoriser ce genre de technologie? Ben, on a déjà des technologies qui avancent énormément, des technologies qui maintenant sont de plus en plus âgées et qui sont de plus en plus intrusives sur le corps. Maintenant, on a des machines partagées qui peuvent se mettre directement sur nos portables ou sur nous. On en a de plus en plus dans le sac. On a des caméras absolument partout. Et à l'avenir, ces technologies, elles seront peut-être même injectées en nous, dans nos corps. Et là, si on veut avoir des informations ou savoir si on a perdu notre chat, par exemple, on pourra lui mettre une puce et savoir directement où est-ce qu'il est. Et on peut aller vers ce genre de technologie où la technologie fera même complètement partie de nous ou partie de nos proches ou notre univers. Et ça, c'est de la technologie donc, qui sera même intégrée à l'être humain, connectée à l'être humain et dans l'humain. Et est-ce que ça peut avoir des avantages aussi utiles qu'il ne faut pas nier non plus?
I think that in all of these cases right now, the technologies are moving faster than the regulations or the thought about what the implications are. Private companies are moving these questions so far out ahead of where we can figure out what will go wrong or what might go wrong. Every time I play a game, there's some game designer asking for my location on my phone. So, you know, there are, you know, multiple breaches of privacy occurring all of the time for reasons that we don't understand. And I think that this, you know, this sort of dynamic is only going to continue and increase. There is no control over this, and we have no idea where we're rushing towards.
Bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. On pourrait en discuter très longuement. Merci à vous. Est-ce que vous avez encore une séance de dédicace à la librairie? Oui. Claude aussi? Bien. Alors, vous pouvez retrouver Paolo Bacigalupi et Claude Eken à la librairie à l'instant. Merci et à bientôt.